Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blanchindani.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Contrôle systématique des documents des véhicules dès ce matin sur toutes les routes de Kinshasa. Cette décision du gouverneur de la ville est prise, selon lui, pour lutter contre les embouteillages et les désordres observés sur les routes de la capitale. En Ituri, au moins 22 autres civils ont été tués ce dimanche dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le territoire d'Irumu, ce qui porte à 25 le nombre de personnes tuées par ces rebelles dans cette région en l'espace de 48 heures. L'ONG Convention pour le respect des droits humains parle des morts de trop et interpelle les autorités. Le Centre des opérations des urgences de santé publique digitalise désormais les traitements des informations afin d'optimiser la gestion des rumeurs et des infodémies à travers le pays. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur de cette structure relevant de l'Institut national de santé publique, Dr. Christian Ngandou. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Lutte contre les embouteillages et les désordres observés sur les routes de la capitale. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Cette déclaration est du gouverneur de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba l'a fait savoir dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux lundi dernier. Il annonce plusieurs autres mesures qui entreront en vigueur à partir de ce lundi 26 janvier 2026. C'est notamment le déploiement des 3000 agents de la police, la division urbaine des transports, la brigade spéciale de protection de l'environnement, la régie des fourrières et du contrôle technique dans 60 carrefours à problème. Objectif, traquer les inciviques routiers. On écoute les explications de Daniel Bumba dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Kinoise et Kinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire, faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun.
Concernant justement cette lutte contre les embouteillages et l'incivisme routier à Kinshasa, il faut rappeler que ce genre de mesures ont déjà été prises dans la capitale pour résoudre ces mêmes problèmes, mais des mesures qui donnent l'impression de ne pas être la solution attendue. Revivons le rappel de ces anciennes mesures déjà appliquées dans les trafics routiers à Kinshasa avec Élise Kavira.
Il y a déjà quelques mois, par exemple, la garde républicaine, sur ordre du président de la République, avait été appelée à se joindre à la police des circulations routières pour mettre fin aux embouteillages chroniques et restaurer l'ordre. Une unité spéciale appelée Oudjana a même été formée pour la même cause, mais cela ne fut que sur une courte durée. Que dire alors de la circulation alternée ou encore des mesures restrictives à l'encontre des conducteurs poids lourds? Toutes ces mesures avaient été prises et exécutées, mais au bout d'un moment, plus personne n'en parle. Qu'en sera-t-il alors de ces nouvelles mesures du gouverneur Daniel Bumba, quand on sait que dans la foulée, l'autorité de Kinshasa a également martelé sur la nomenclature officielle des prix des transports en commun fixés par l'hôtel de ville?
Rendons-nous dans la province du Maniema, où la société civile de Kailo alerte les autorités provinciales et nationales sur l'état de dégradation du pont Elila jeté sur la rivière portant le même nom. Situé sur la RN31, ce pont permet de connecter 4 territoires du chef-lieu de la province. Cette structure citoyenne fait savoir que le trou
qui se creuse de jour en jour sur les tabliers de ces ponts risque de couper en deux cette infrastructure d'intérêt commun et rendre le passage pénible. La société civile de Kayulo appelle les autorités à se mobiliser avant que la situation ne se détériore. Florence Kizalunga, reportage.
D'une importance capitale, le pont Elila relie les territoires de Pangi, Kayilo, Punia et Lubutu à la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Il ne faut pas qu'il se coupe en deux. Patrick Kapamba, vice-président de la société civile de Kayilo, tire la sonnette d'alarme.
Le pont de la rivière Elila est en danger. C'est comme ça que nous disons aux autorités de voir la situation qui prévaut maintenant sur le pont Elila. Parce qu'il y a même des véhicules, des poids lourds qui passent chaque jour. Ils doivent intervenir le plus tôt possible.
Le ministre provincial des infrastructures appelle la société civile à l'apaisement. James Kimbayo fait savoir que cette question est sur la table du gouvernement provincial.
On a aussi remarqué les débits de dégradation de ces ponts et le gouverneur de province, M. Kamakou Moïse, venait de me dépêcher pour évaluer qu'est-ce qu'il faut faire et d'ici là, quelques dégradations seront arrangées.
Construit depuis l'époque coloniale, le pont Elila est long de 196 mètres et large de 8,50 mètres. Il se trouve sur le point kilométrique 33 de Kindu sur la RN31. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, depuis plus d'une semaine, des vastes zones du Nord Kivu font face à des sérieuses perturbations des réseaux de téléphonie mobile, touchant notamment Vodacom, Airtel et Orange. Les territoires de Walikale, Masisi et Rutshuru sont parmi les plus affectés, plongeant leurs habitants dans un isolement numérique préoccupant. Selon de multiples témoignages, l'absence de connexion perturbe notamment les transactions économiques qui dépendent exclusivement des services de mobile money dans ces régions enclavées. Du côté de Vodacom, un agent basé à Walikale évoque une panne survenue au niveau des équipements satellitaires. Suivez ces reportages.
Dans le territoire de Walikale, les centres de Ombomu, Binjingala, Logu, Makana, ainsi que le groupement de Waloa et la zone de Pinga sont particulièrement affectés. À Rutshuru, la perturbation touche notamment la chefferie de Bwisha. Dans le territoire de Masisi, des sources locales signalent également des dysfonctionnements dans une partie de Ufamandu. Conséquence, après plus d'une semaine de rupture, la communication est quasiment impossible. Les opérations financières largement basées sur la monnaie électronique dans ces zones dépourvues de services bancaires sont totalement paralysées. De plus, dans une région marquée par des violences armées persistantes, l'incapacité d'accéder aux informations sécuritaires accroît la vulnérabilité des populations, comme en témoigne Julien Bounda, porte-parole du cadre interpaysan pour la transformation des conflits, basé à Pinga.
On se débrouille maintenant à la connexion Wi-Fi localement. C'est comme ça qu'on n'a pas vraiment les informations au niveau de Pefoko, Axe, Kalembe, Hula, Katobo.
Bien que les causes ne soient pas encore confirmées officiellement pour Airtel et Orange, un technicien de Vodacom à Walikale indique que la panne aurait débuté à Kinshasa. Il assure que des équipes techniques sont actuellement mobilisées pour rétablir le service dans les meilleurs délais.
Le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central affirme avoir accusé réception vendredi du réquisitoire de la Cour de cassation afin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre Grace Bilolo, gouverneur des provinces, après des rapports accablants issus des enquêtes de l'Inspection générale des finances. C'est ce que révèle un communiqué officiel de cet organe délibérant rendu public l'après-midi de ce vendredi. Ce communiqué signé par le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, Bilintunga, indique qu'il appartient désormais au bureau de l'Assemblée provinciale de se réunir pour donner suite à cette demande du procureur général. Nana Plurich Mambo.
C'est le 15 août 2025, sur instruction de la présidence de la République, que l'inspection générale des finances a lancé des enquêtes au Congo central, révélant le détournement de plus d'un million de dollars américains. Avant de donner cette instruction à l'IGF, la présidence de la République a été saisie à deux reprises par la cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Congo central. Dans ces saisines, cette structure dirigée par Joseph Mabanga a signalé les détournements des deniers publics et la malversation financière à travers notamment la redevance pétrolière, la rétrocession des entités territoriales décentralisées, les détournements par achat des engins et tracteurs d'occasion en Angola avec des coûts très exorbitants. Pour les présidents de la cohésion provinciale des notables ici des 366 groupements du Congo central, cette enquête de l'IGF a été bâclée car la somme détournée doit s'élever à près de 50 millions de dollars et non à 1 million. Réagissant sur les réseaux sociaux, Martin Solo, chargé de communication du gouverneur des provinces, a affirmé que le gouverneur est informé de cette saisine et va présenter ses moyens de défense devant la représentation provinciale dès qu'il sera invité. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Joseph Mabanga, le président de la cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Congo central, compte faire une déposition auprès du président de la République et du procureur général près la Cour de cassation pour l'ouverture d'une deuxième enquête. En Ituri, au moins 22 autres civils ont été tués ce dimanche dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Pakakulo, dans le territoire du Rumu, ce qui porte à 25 le nombre de personnes tuées par ces rebelles dans cette région en l'espace de 48 heures. L'ONG Convention pour le respect des droits humains, CRDH, parle des morts de trop et interpelle les autorités. Des détails avec Martial Kizabiamongo.
C'est depuis 4 heures du matin que des individus identifiés comme les rebelles des ADF ont attaqué la localité de Apakolo, près de la colline appelée communément Barça, à 15 km à l'ouest du centre commercial d'Otmaber. Selon l'ONG CRDH, qui cite une femme rescapée, parmi les victimes, 15 personnes ont été exécutées à tour de rôle par leurs ravisseurs dans une maison abandonnée où elles étaient gardées, après avoir été prises en otage la veille. Toujours selon la même source, le 7 autres civils ont été tués par balles des rebelles le long de la route. La nuit des vendredis à samedi, une double attaque attribuée aux ADF a eu lieu dans les localités des Aombo et Mangualo situées dans le Wallace et Vokuto. 3 civils y ont été tués par balles. L'ONG CRDH plaide pour des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF dans les zones proches des localités où s'observent les retours de la population afin de protéger les habitants.
Il faudrait qu'il y ait une force de défense et de sécurité pour traquer ces terroristes et permettre à la population d'aller récupérer les corps de nos populations.
Aucune réaction de l'autorité locale n'a été enregistrée jusqu'à présent. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant ces temps, plus de 63 000 personnes déplacées ont été accueillies entre les 1er et les 12 janvier sur l'Askikuku-Lusoa, au nord de la chefferie de Buito, dans les territoires de Rutshuru. Dans un rapport publié vendredi, les organisations humanitaires local indique que ces déplacés sont répartis dans plus de 12 000 ménages. Ils ont fui les affrontements opposant l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo alliés au FARDC dans les territoires de Walikale et de Rutshuru. Bernadette Nyangi pour les détails.
Selon ce rapport, 63 035 déplacés internes sont arrivés en provenance des groupements de Kisimba et Ikobo dans le territoire de Walikale ainsi que des groupements Kiondo, Mutanda et Kanyabayonga dans les territoires de Rutshuru. Ils sont arrivés par vagues successives entre le 1er et le 12 janvier, fuyant les combats dans les villages de Kitunda, Mukole, Masiza et Kiandikiro entre autres, dans les zones où ils ont trouvé refuge, notamment Kikuku, Kiala, Mirangi, Iobora, Birundule et Lusoa. Les déplacés sont hébergés soit dans des familles d'accueil, soit dans des écoles et des églises. Dans ces structures publiques, ils passent la nuit dans les salles de classe ou les salles de culte, mais doivent quitter les lieux chaque matin afin de permettre la reprise des cours ou les activités religieuses. Les organisations humanitaires locales alertent sur l'insécurité persistante qui empêche pour l'instant toute intervention en leur faveur. Elles soulignent que les déplacés ont des besoins urgents en vivres et articles non alimentaires. À noter que ces nouveaux arrivants s'ajoutent à plus de 6701 ménages déjà déplacés entre novembre et décembre 2025 dans la même zone, aggravant davantage la pression humanitaire.
Les parents et les jeunes adolescents ont été sensibilisés sur les violences basées sur le genre. C'était au cours d'une conférence débat organisée ce samedi par l'ONG dénommée Femmes engagées et mobilisées pour son intégration dans la société Femina, en collaboration avec la pastorale de la santé de la paroisse Saint-Édouard à Binza Telecom. L'objectif était de sensibiliser les jeunes à dénoncer toutes les fois qu'ils seraient victimes de ce genre d'actes. Le point avec Élise Kavira.
Les différents intervenants ont expliqué à l'assistance ce que sont les violences sexuelles basées sur le genre, comment les éviter et quelle attitude adopter lorsqu'on en est victime. Au terme de ces assises, Lionel Condé, âgé de 13 ans, nous partage ses impressions.
L'activité était intéressante parce que ça nous apprend que certaines avances, on doit les refuser parce que toute personne n'a pas toujours de bonnes intentions. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller dénoncer soit aux parents, soit aux autorités au 156. Si tu as une SIM, même sans unité, même sans méga, tu peux appeler, on va te recevoir, on va savoir comment gérer ton cas.
Pour sa part, la présidente de l'ONG Femina, Madame Yette Elonga, se dit satisfaite de cette rencontre car sa cible, c'est-à-dire les jeunes adolescents, a été majoritaire dans la salle.
Je vise à amener les enfants à comprendre qu'ils sont des fois autour d'un danger sans le savoir. Et je suis quand même contente que le public ait été majoritairement composé des enfants parce que c'est eux les grandes victimes malheureusement.
L'un des intervenants, le docteur Évariste Kayembe, est revenu sur le viol et ses conséquences. Pour cela, il a demandé aux participants d'avoir la culture de la dénonciation et pour éviter toute contamination, il a préconisé qu'elle se rende dans les structures médicales en dehors les 72 heures afin de recevoir le kit PEP qui est un ensemble de médicaments remis aux victimes afin de les protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.
Actualité internationale.
Nous sommes en France où des centaines de personnes se sont réunies ce dimanche dans le 20e arrondissement devant le foyer de Murier où El Hassen Diarra, mauritanien de 35 ans, a été contrôlé puis embarqué par des policiers avant de mourir au commissariat dans la nuit du 14 au 15 janvier. L'IGPN, la police de police, a été saisie d'une enquête visant des membres des forces de l'ordre filmés en train de molester le jeune homme dans une vidéo devenue virale. La famille dénonce des violences policières, vidéo à l'appui, et son avocat a déposé plainte pour violences volontaires ayant entraîné la mort.
L'invité.
Le Centre des opérations des urgences de santé publique digitalise désormais le traitement des informations afin d'optimiser la gestion des rumeurs et des infodémies à travers le pays. Invité de Radio Capi, le coordonnateur de cette structure relevant de l'Institut national de santé publique, Dr Christian Gandou, exhorte la population à s'abstenir de diffuser de fausses informations sur une maladie au risque de désorienter les plans de gestion des urgences. Il indique avoir mis en place une cellule pour la gestion des infodémies et autres rumeurs liées au secteur de santé publique. Docteur Christian Gand nous entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour monsieur les coordonnateurs.
Bonjour monsieur.
Quelle est la situation des gestions des urgences et des infodémies en RDC au cours de l'année 2025?
La situation des systèmes de gestion des infodémies a impliqué pratiquement toutes les sources qui génèrent, n'est-ce pas, les infodémies. On devait aussi essayer de voir quelles sont les thématiques en termes de contenu qui sont impliquées, n'est-ce pas, par rapport aux infodémies sur les urgences de santé publique. Vous n'avez pas oublié que l'année qui s'est écoulée, nous avons eu à travailler essentiellement sur les épidémies, notamment la mpox, le choléra, la rougeole, et même d'autres épidémies comme Ebola. Mais nous avions aussi eu à participer, à nous impliquer dans la gestion de certains événements de santé publique comme l'intoxication de l'environnement due à la contamination, par exemple, des eaux de boisson. Et en dehors de ça, il y a aussi des désastres, des catastrophes comme les inondations avec tout ce qu'il y a comme relais, notamment les déplacements massifs des populations dans des sites d'hébergement. Eh bien, tous ces événements que je viens d'énumérer ont bénéficié d'un traitement en termes de collecte, traitement, en termes d'analyse et des mesures correctives sur les infodémies que ces événements pouvaient générer dans le temps.
Alors, que faire selon vous pour lutter ou décourager des infodémies à travers les pays?
Bon, comme vous le savez, il y a certaines sources qui sont crédibles, il y a certaines sources qui ne sont pas crédibles, qui permettent aussi de générer certaines informations qu'on peut soit accepter, soit réfuter. Et donc, les acteurs qui sont impliqués dans le système de gestion des infodémies se sont réunis. Eh bien, je veux même insister, ce sont des acteurs multisectoriels. Parce que vous allez trouver dans cette évaluation qui vient d'être faite, qui est un élément très important, vous allez retrouver les acteurs des médias qui sont là-dedans. Vous allez trouver les acteurs communautaires qui sont dedans. Vous allez trouver les chercheurs, les scientifiques. Vous allez trouver là-dedans les acteurs des centres d'appel, les call centers comme on les appelle. Vous allez trouver tous les acteurs des systèmes de gestion des incidents que nous avons connus au-delà de l'année passée. et même les acteurs de différents programmes multisectoriels de la santé humaine, santé animale, santé environnementale, les organisations, on ne va pas oublier, et même les décideurs ont été aussi partie prenante. Donc,
après cette réunion d'évaluation, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que nous avons eu à identifier une feuille de route. Et la feuille de route, la bonne chance, je veux dire, que nous avons, c'est que cette feuille de route, elle est concertée, elle est conjointe. Et dans cette feuille de route, chacun a un rôle et une responsabilité à jouer. Donc la feuille de route comprend les actions, les activités que nous allons mener au courant de cette année 2026 pour essayer de voir comment améliorer la collecte des infodémies en observant toutes les sources, en observant aussi tous les secteurs qui sont impliqués pour générer les infodémies pour les gens de santé publique. Deuxièmement, nous allons essayer de voir aussi toutes les actions, les activités qui sont liées aussi au traitement de ces infodémies et même comment est-ce que nous formulons les actions d'amélioration. Ça, c'est sur le point de vue du processus. Mais sur le point de vue structurel, il faudrait aussi qu'on mette très rapidement cette cellule de gestion des infodémies qui est déjà de fait mise en place, mais qui devra se formaliser rapidement pour que nous puissions avoir un cadre tout à fait reconnu et qui va commencer à gérer les infodémies. Et cette cellule va se faire sous, bien sûr, le centre conjoint d'information du centre d'opération du genre de santé publique qui est situé au niveau de l'Institut national de santé publique avec l'implication de tous les secteurs que j'ai évoqués, santé animale, santé environnementale, santé humaine et bien d'autres secteurs aussi pertinents en dehors de ceux-là que j'ai cités et pourquoi pas les organisations. Donc ça c'est vraiment important, nous devons prendre cette feuille de route comme étant notre vademécum que nous allons suivre, qui va nous permettre de se présenter comme un fil conducteur que nous allons suivre durant toute l'année 2026.
Monsieur Christian Ngandou, nous vous disons merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'était donc notre invité Christian Ngandou qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition du journal coordonnée et supervisée par Jude Mister Bilandan Kumar et mise en onde par Jean-Claude Nuntiala Mwanama Kengonsoalou. Ce journal est encore disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.